présentons devant Dieu et nous prions. Seigneur, nous sommes aveugles et devant toi nous le confessons. Quand nous nous croyons quelqu'un, quand nos fausses vertus nous montent à la tête, c'est alors que nous voyons mal, c'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Quand la colère, quand la rancune et le jugement nous submergent, c'est alors que nous voyons mal, c'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Quand nous perdons l'espérance, la certitude de ta victoire, c'est alors que nous voyons mal, c'est alors que nous ne voyons plus. Seigneur, délivre-nous. Amen. Tout en restant assis, nous prenons maintenant page 740 de notre recueil, le chant 47-11, et nous y chantons maintenant la strophe numéro 1. Page 747-11. Dans Jérémie 29, il est dit « Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non pas de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. » Et je vous invite à vous lever maintenant pour chanter dans le même chant 47-11 les strophes numéro 2 et numéro 3.
Habacuc. Je vais guetter pour voir ce qu'il me dira. Écris la vision, grave-la sur les tablettes, afin qu'on puisse la lire couramment. Mais le juste vivra en tenant ferme. Et pour qu'un jour, dans la confiance, nous puissions dire comme les apôtres dans Luc, nous avons fait ce que nous devions faire. Et nous prions avec le théologien André Dumas. Ô Dieu de vérité, d'amour et de paix, nous te remercions des contraintes que tu nous imposes, de l'œuvre que nul n'a faite et qu'il nous faut faire, de la vérité que nul n'a dite et qu'il nous faut dire. Empare-toi de nous, sois fort avec nous, afin que nous soyons forts pour faire ta volonté. Au nom de celui qui nous appelle à l'héritage de son royaume de paix, d'amour et de vérité. Amen. Et nous chantons la quatrième strophe du chant 47-11, page 740.
Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture 2 Rois 4. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant : Ton serviteur, mon mari, est mort, et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le Créateur est venu pour prendre mes deux enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, mais ta servante n'a rien du tout à la maison, qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases, chez tous tes voisins, des vases vides. Et n'en demande pas un petit nombre, hein? Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors, elle le quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vasés et les versait. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, « Mais présente-moi encore un vase. » Et il lui répondit, « Il n'y a plus de vase. » Et lui s'arrêta. Elle alla le rapporter à l'homme de Dieu et il dit, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras toi et tes fils, de ce qu'il restera.
Élisée, dont il est raconté dans le second livre des rois qu'il a été prophète pendant 50 ans, en Israël, Israël gouverné par des rois, successeurs de Salomon, des rois présumés, débauchés et idolâtres. Élisée, prophète beaucoup moins cité dans le Nouveau Testament que ne l'est Élie, son maître en prophétisme, Élisée n'y est en effet dans le Nouveau Testament cité qu'une seule fois dans l'Évangile selon Luc, par Jésus qui répond à ses détracteurs. Il y avait plusieurs lépreux en Israël au temps d'Élisée le prophète et aucun d'eux ne fut rendu net, sinon Naaman le Syrien. peu cité dans le Nouveau Testament, mais cela n'enlève rien à sa popularité, à tel point que certains auteurs théologiens ont pu voir en lui, en Élisée, le précurseur de Jésus, tant ses miracles non seulement sont nombreux, mais aussi sont orientés vers les laissés pour compte, les opprimés et les démunis. Le livre apocryphe, mais néanmoins biblique, appelé le Siracide, en parle ainsi. Élie, à la vérité, fut dérobé par le tourbillon, mais Élisée a été rempli de son esprit. Et là, j'interpose, le texte dit, biblique, une double portion de l'esprit. Pendant sa vie, il ne redouta pas les princes, et nul ne triompha de lui par sa puissance, rien, aucune parole ne le domina jamais. Et même après sa mort, son corps prophétisa. Pendant sa vie, il fit des prodiges extraordinaires, et après sa mort, il opéra des merveilles. Voilà ce que dit d'Élisée le livre du Siracide. Après sa mort, c'est étonnant, mais comme Jésus, pourrait-on dire. Mais en ce qui concerne Élisée, c'est tout de suite, puisqu'il est écrit que lorsqu'on le déposa, Élisée, après une belle carrière dans sa tombe, il ressuscita quelqu'un d'autre qui était déjà dans cette tombe. Élisée serait mort à un âge avancé, vers 800 ans avant notre ère. Il n'est pas interdit de penser que des personnes qui lisaient la geste de Jésus dans les évangiles aient pu penser en parallèle, en réminiscence, à ce prophète si particulier. Mais, contrairement à Jésus, il ne fallait pas l'embêter, Élisée. 42 enfants, raconte-t-on, qui avaient eu l'outrecuidance de se moquer de sa calvitie à ce prophète, furent dévorés par deux ours qui étaient surgis de nulle part. Quand les récits sur les prophètes se transforment en contes et légendes. Cela rappelle les textes, cela foncièrement apocryphe, à propos de l'enfance de Jésus dans l'évangile de l'enfance selon Thomas. Le jeune Jésus, par exemple, maudit des enfants qu'il avait offensés, et même, mais ce sont des textes apocryphes, et même tue un maître d'école qui voulait le corriger. Élisée fut aussi, on va dire, le premier technicien écologique. À Jéricho, il assainit les eaux d'une source polluée en y jetant du sel. De même, il lutta victorieusement contre la sécheresse et même le changement climatique, faisant gonfler les eaux d'un torrent à sec pour abreuver les hommes et les chevaux du roi Josaphat qui était en guerre. Bref, lisez dans le second livre des rois les fabuleuses aventures du prophète Élisée. Maintenant, notre texte. Un texte que j'ai choisi pour ce jour. Élisée vient à la rescousse d'une veuve d'un de ses confrères, une femme accablée par une dette sans doute contractée, mais le texte ne le dit pas, par son défunt mari. Dans ces temps anciens, il n'y avait évidemment aucun système humaniste de recouvrement de la dette. Il n'y avait que ça, par exemple, qui est évoqué dans cette parabole racontée par Jésus à propos de la nécessité de pardonner. Donc c'est 800 ans plus tard, mais c'est toujours aussi violent. Matthieu, chapitre 18. On lui en amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Donc, on peut déjà lire notre histoire du jour comme un acte de puissance de Dieu via son prophète contre l'injustice de la dette qui ne fait que des victimes au profit des riches. On peut lire aussi un acte de puissance de Dieu contre la mise en esclavage. Mais on peut y voir aussi d'autres choses. Des choses qui nous sont familières quand nous sommes familiers des évangiles. Ici, vous avez remarqué, Vous l'avez remarqué peut-être, l'huile est abondante et elle est même multipliée. Comme le pain l'est aussi dans nos récits familiers, comme celui-ci, rappelez-vous, dans Matthieu 14. Jésus leur répondit, « Ils n'ont pas besoin de s'en aller, il y avait des gens, donnez-leur vous-même à manger, mais ils lui dirent, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons, apporte-les-moi ici, leur dit Jésus. » Il fit asseoir la foule sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la bénédiction, la prière de bénédiction, puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent, tous furent rassasiés, et l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Mais on notera aussi qu'Élisée lui-même, un peu plus loin dans le même chapitre du texte de ce jour, va multiplier lui-même des pains d'orge, avec l'aide de son fidèle serviteur. Et ce récit figurera parmi les récits de l'Ancien Testament qui ont inspiré les rédactions des récits appelés « multiplication des pains » que nous connaissons. Ce qu'on peut aussi noter dans ce récit, ce sont certaines conditions à ce miracle. La première étant la nécessaire solidarité entre humains pour que ce miracle se produise. Puisque cette femme sera invitée par le prophète à aller demander beaucoup de vases à ses voisins. Et les voisins donneront des vases. En gros, si Dieu ira multiplier l'huile, il ne va pas remplacer la solidarité préalable, laquelle pourrait être considérée comme le miracle réaliste de ce récit. Sans courage de demander de l'aide, et sans solidarité active, pas de miracle. C'est sans doute un élément catéchétique important, voire fondamental de ce texte. On doit aussi noter cette recommandation du prophète envers cette femme. Il lui dit « Tu fermeras la porte sur toi et tes enfants ». Le miracle du gisement de l'huile ne sera donc pas public. Son déroulement ne devra rester connu que pour ses bénéficiaires. Même ceux qui, en donnant des vases, ont permis qu'il se produise ce miracle, n'auront pas le droit d'en voir quoi que ce soit. La porte est refermée. Nous, lecteurs, évidemment, puisque nous sommes plus malins, sommes dans la maison. Aucune porte pour nous n'est fermée. Mais évidemment, ce n'est qu'un artifice littéraire. En fait, même, nous ne devrions rien connaître de cette histoire, car cette histoire n'est paradoxalement pas faite pour être racontée. Et c'est un autre élément catéchétique important. Les miracles de Dieu n'ont pas, selon ce texte, la nécessité d'être spectaculaires, et au fond, ils ne concernent que ceux et celles qui en sont les bénéficiaires. Cela dirait aussi, peut-être, que si l'action de Dieu reste secrète, elle n'en serait pourtant pas moins efficace. Enfin, on sait ce que l'huile signifie. Elle est ce produit qui permet l'onction, celle dont bénéficie celui qui, par exemple, va être consacré comme roi. Le mot « Christ » signifie littéralement « celui qui a été huilé ». J'espère que je ne l'apprends pas à quelqu'un. Cette femme, ses enfants, bénis par cette onction sociale miraculeuse, ne sont plus esclaves de la dette qui pesait sur eux. Non seulement ça, mais ce récit offre un dernier et très important élément, à savoir, comme dans les récits de la multiplication des pains, à savoir ce qui reste. Je cite, « Va vendre l'huile et paie ta dette et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. » Dernier élément catéchétique, Après avoir appris que Dieu agit contre l'injustice qui frappe les plus démunis, après avoir compris que le préalable nécessaire du miracle, c'est la solidarité, après avoir saisi que le miracle de Dieu, c'est plutôt dans la sphère du privé, nous nous rendons compte maintenant qu'après le pardon, pardon c'est l'autre nom de la remise de dette, après, il y a un reste qui permet de vivre, un reste pour vivre et pour toute la vie. Ce qui est dit ici, c'est que quand la grâce a commencé à agir, elle ne va pas s'arrêter. Amen. C'est maintenant le moment de la confession de foi et nous allons prendre notre feuille de culte, nous lever pour lire ensemble la confession de foi de Barmen qui a été élaborée d'après la déclaration du synode confessant de Barmen le 31 mai 1934 qui réunissait des théologiens dont Karl Barth et Dietrich Bonhoeffer qui voulaient lutter contre le régime nazi qui était en train alors de se mettre en place. Et maintenant, nous pouvons lire cette confession de foi en même temps et ensemble. Nous croyons que Dieu est le Père de tous les humains, de tous les peuples, de toutes les races. Personne n'est exclu de son amour. Nous sommes tous créés à son image et à sa ressemblance. C'est ce qui fonde la dignité et l'égalité de tous les humains. Dieu, le Père, a donné la terre à tous et pour tous. C'est ce qui fonde la solidarité. Les biens de la création doivent affluer dans les mains de tous. C'est le plus sûr chemin de la paix, car la paix est le fruit de la justice. Nous croyons que Jésus est le frère de tous les humains, et spécialement des pauvres. C'est lui que nous voyons avoir faim, être nu, étranger, prisonnier ou malade. Nous croyons que celui qui juge, humilie ou calomnie, juge, humilie, calomnie Jésus-Christ, car tout homme a le visage du Christ. Nous croyons que Jésus-Christ, par sa vie et ses paroles, nous dit qui est l'humain. Nous avons à faire nôtres les choix qu'il a faits, faire passer les personnes avant les richesses, la liberté avant la tranquillité, la vérité avant la propre opinion, le respect des autres avant l'efficacité, l'amour avant la loi. Jésus-Christ ressuscité nous donne l'Esprit de Dieu. Nous croyons que l'Esprit est Esprit de liberté, Esprit de tolérance, Esprit de justice, Esprit de paix. Il accueille au lieu de l'exclure, il respecte au lieu de condamner, il ouvre les portes et ne les ferme jamais. Nous croyons qu'en son espérance, et plus forte que tous les désespoirs. Amen.
Je vous invite à vous unir dans la prière. Ô Dieu, nous voulons te bénir pour tout ce que tu nous as déjà donné, pour la fraternité humaine et celle magnifiée par Jésus de Nazareth, pour ta parole vivante, lumière, nourriture et vie, que ton amour nous donne, nous te bénissons. Pour cet être nouveau que tu fais naître en nous un peu plus chaque jour, nous te bénissons. Et grâce à toi, nous pouvons penser en vérité à tous ceux que ton amour confie à notre amour. Pour tous ceux que nous te nommons à cet instant dans le secret de nos cœurs, nous te prions, Seigneur. Pour chaque être humain qui souffre, pour les solitaires, pour ceux qui ont le cœur lourd, nous te prions. Seigneur, que quelqu'un puisse être avec eux, avec toi et par toi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous mets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous pouvez vous lever.
C'est le temps de l'exhortation et de la bénédiction. Avec un père de l'Église, ô mon Dieu, que la nuit je me souvienne de ton nom, que jamais le sommeil, le plaisir, les affaires ne me fassent oublier l'honneur que je te dois, te méditant chaque jour, que je garde mon âme élevée vers toi, que rien ne puisse arrêter le vol de ma prière, afin que même la nuit mon cœur s'unisse à toi, à qui reviennent gloire et honneur. L'Éternel te bénit et il te garde, il t'accorde sa grâce, l'Éternel lève son visage vers toi et te donne la paix. Amen.